Alors quand vous priez, Dieu utilise la prière pour faire ce qu'il veut avec. Parce que la Bible nous dit « prier les uns pour les autres ». Alors je vous remercie dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et la prière qui monte vers Dieu, qui monte devant le trône de Dieu pour nous, vraiment, ça a du prix, ça a de la valeur. Parce que si on ne prie pas les uns pour les autres, écoutez, il y a quelqu'un qui le fait pour nous. Il s'appelle Jésus. La Bible nous dit qu'il est le souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Il est aussi notre avocat. C'est lui qui connaît nos dossiers à chacun, connaît nos vies, il connaît nos manquements, nos qualités. Il connaît aussi nos imperfections. C'est lui qui connaît nos dossiers. Et un avocat, pour pouvoir défendre son client ou sa cliente, va s'identifier véritablement au dossier qui lui est donné pour mieux défendre, pour au mieux défendre sa cliente ou son client. Vous me suivez jusque-là ? Alors Jésus, notre souverain sacrificateur et notre avocat, la Bible nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat-là, qui s'appelle Jésus-Christ, comme je le disais tout à l'heure, comme il a été tenté en toutes choses, comme nous, en toutes choses, mais lui n'a jamais péché. Par contre, nous chutons, nous avons nos faiblesses, nos manquements. C'est pour cela que lui peut, justement, nous soutenir, nous secourir quand nous sommes confrontés aux difficultés. Pourquoi ? Parce que Jésus est le seul qui connaît nos vies. Je ne connais pas vos vies. On ne se connaît pas véritablement, mais le Seigneur connaît nos vies. Et il sait exactement comment parler au Père en notre faveur. Alors je peux vous dire, avoir en la personne de Jésus cet avocat, je peux vous dire qu'à tous les coups, il sait utiliser les mots. Parce qu'aujourd'hui, les avocats qui plaident dans les dossiers, si vous n'avez pas d'argent, vous allez à la mairie, vous prenez un avocat. Mais quand vous avez de l'argent, vous choisissez le meilleur avocat. Nous avons un ancien président qui a des difficultés. Je peux vous dire, il n'a pas choisi le petit avocat du barreau de Paris. Il a pris le gros barreau. Enfin, je dis barreau, petit, gros barreau. Mais il a choisi un avocat vraiment expérimenté, quelqu'un qui va vraiment rentrer, prendre du temps pour lire chaque phrase, pour vraiment rentrer derrière chaque mot, pour défendre au mieux son dossier. Alors Jésus, notre Sauveur, comme il connaît chacune de nos vies, alors quand il plaide en notre faveur auprès du Père, heureusement que nous l'avons. Heureusement. Parce que la Bible nous dit qu'on ne sait pas nous prier. On ne sait pas quoi demander à Dieu. Mais le Seigneur Jésus, il sait exactement comment parler à son Père, pour nous. Il sait quoi demander, il sait comment faire. Il ne va pas jouer avec les mots, il ne va pas faire de l'émotion devant Dieu, il ne va pas toucher le cœur de Dieu avec le... Non, non, il sait exactement utiliser les bons mots pour pouvoir défendre nos causes. Et je peux vous dire, notre dossier à nous était lourd. Lourd. Et même encore aujourd'hui, nous portons les conséquences. Mais la Bible nous dit, je le répète, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, un avocat. Alors quand il commence à prier pour nous, quand il commence à parler à Dieu en notre faveur, Jésus pouvait dire, le Père m'exauce toujours. Toujours le Père l'exauce. Amen. Je vais m'arrêter 30 secondes et je vais aller prier avec mes frères, Henri et Alain, pour un bien-aimé, que quand le Seigneur Jésus était sur la terre, parce qu'il a été aussi, il est venu sur la terre, la parole de Dieu nous dit que quand il est retourné dans la ville où il a été, il a grandi, parce qu'il est né à Bethléem, et ensuite il a grandi à Nazareth. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Alors, À Nazareth, Jésus, quand il est rentré dans le ministère, à l'âge de 30 ans, il allait, la Bible nous dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur l'avait oint pour ça. Et à un moment donné, il revient à la ville où il a été, où il a grandi, c'est-à-dire à Nazareth. Alors, la logique des choses, c'est quand vous partez, il y en a certains au milieu de nous qui sont originaires de la Bretagne, la Normandie, des îles, d'Afrique, d'Asie, je ne sais d'où d'autres, mais quand ça vous arrive, on est dans une période de retour aux sources, c'est-à-dire on revient au pays, comme on dit, on retourne au pays. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui vont partir bientôt ? Vous partez comment ? En bonifié ou en débonifié ? D'accord. Alors, on va prier pour ça, vous qui partez bientôt, pour que le Seigneur Jésus vous accompagne. Il l'a dit, je suis avec vous tous les jours. Il vous accompagnera. Il permettra que vous passiez des bons moments, que vous puissiez vous reposer, puisqu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour se retirer, pour se reposer. D'accord ? Et nous sommes dans cette période dite estivale de vacances. Eh bien, quelquefois, on va retourner à la source. Et Jésus, lui, après être rentré dans le ministère à l'âge de 30 ans, il y a un moment donné, il revient vers le pays, il revient au pays. Il revient dans le village où il a grandi, où il était connu. On l'a vu grandir, Jésus, à Nazareth. On l'appelait Jésus de Nazareth. Son beau-père, Joseph, était charpentier, il travaillait le bois. Marie, sa maman, qui l'a porté 9 mois, a élevé Jésus, a pris soin du petit garçon, du jeune homme, ainsi de suite. Et à l'âge de 30 ans, quand il est rentré, Dieu l'a appelé, il a été au Jourdain. Et après avoir passé 40 jours dans le désert, il se fit baptiser par Jean le Baptiste. Vous vous souvenez de ça ? Et arrivé à Nazareth, Jésus revient au village où il a été élevé. La logique, c'est qu'on l'accueille bien comme il faut. C'est vrai ou pas ? Et en arrivant dans ce village, regardez ce qui se passe. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon la coutume, selon sa coutume, il était habitué à le faire. La Bible nous dit selon sa coutume, il entra dans la synagogue à Nazareth. Ça veut dire que c'était coutumier pour lui de rentrer dans la synagogue à Nazareth pour être, il était connu, il était vu, on le connaissait, on savait qui il était. Alors, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva ce jour-là, il se leva pour faire la lecture. Il se leva dans la synagogue et il alla, il prit le rouleau et il commença à faire la lecture. Je poursuis ma lecture sans faire de jeu de mots. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On aurait dû lui remettre le livre du prophète Agée, Michée, Jérémie ou autre. Il y a plein d'autres prophètes. Mais le livre du prophète Ésaïe. Et dans la Bible, il n'y a pas mieux que le prophète Ésaïe qui nous parle de manière aussi limpide de Jésus-Christ. Ésaïe 53 nous décrit homme de douleur, habitué à la souffrance, etc., etc., etc. Ésaïe est celui qui nous présente le Christ à son époque de manière prophétique, on va dire de manière cachée. Et quand les Juifs prennent la Torah, ils ont aussi le livre d'Ésaïe dans la Torah. Quand ils le lisent, il y a comme un voile qui est sur leur esprit. Ils n'arrivent pas à voir que derrière cette phrase, derrière le livre d'Ésaïe 53, que
il nous est parlé d'un agneau, Jésus, qui allait venir souffrir pour l'humanité, mais aussi pour le peuple juif. Ils sont comme aveugles. Aujourd'hui, vous parlez à un juif de Jésus en disant « Jésus, c'est le Fils de Dieu », il vous dit « Non, vous perdez la tête ». Nous, on attend le Mashiach, Yeshua. On l'attend. Pour eux, il n'est pas venu encore. Mais pour nous, Jésus est venu et il est reparti. Alors quel privilège que nous avons de le savoir ça, que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est reparti au ciel. Il a fait le devoir, il a fait le travail. Les Juifs attendent encore le Messie. Mais le Messie qu'ils vont voir bientôt, c'est un Messie. Ils verront les marques, les stigmates, les cicatrices dans les mains de Jésus. La Bible nous dit, ceux qui l'ont percé le verront. Et ils vont se lamenter, ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont se lamenter, de dire, mais pourquoi? Mais c'était lui, pourquoi nous l'avons crucifié? Mais comment on a pu faire une telle chose? Comment l'avons-nous fouetté, donné autant de coups et le clouer à une croix, le livrer aux Romains pour qu'ils puissent le clouer comme ça, de manière bestiale, et que Jésus était en train de mourir? Il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils le verront, celui-là. Mais ils le verront glorifié. Ils le verront resplendissant de gloire. Et ils vont tomber sur leur face. Et ils vont pleurer amèrement. Mais nous, enfants de Dieu, est-ce que notre cœur est aussi sensible? Est-ce que nous nous sommes habitués à Jésus? Est-ce que nous nous sommes familiarisés avec lui? Dis-le à ma place.
Familiarisons.
Il l'a bien dit ou pas? Ne nous familiarisons pas avec lui. Je l'ai bien dit? Frère, tu enlèves cette partie. Parce que sur Internet, ça fait bizarre, hein? Ne nous habituons pas avec Jésus. Regardons-le comme il est, comme celui qui représente la personne de Dieu sur la terre. Regardons-le ainsi. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment celui qui devait venir. Et c'est une grâce que Dieu nous ait fait d'avoir fait tomber ce voile. J'entendais quelqu'un prier tout à l'heure qui disait, il y avait un obstacle, il y avait un barrage qui nous empêchait d'aller vers lui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle. Nous avons un libre accès, une libre entrée pour aller dans sa présence. Aujourd'hui, nous l'avons cela. Et écoutez bien ceci. Quand les Juifs lisent le livre d'Ésaïe, comme nous le lisons, ils ne comprennent pas de qui il en est fait question. Rappelez-vous, il a fallu le secours de Philippe pour l'eunuque éthiopien qui était en train de lire ce livre-là. Il ne comprenait pas. Mais il dit, mais de qui parle le prophète? Il se posait la question, il était sur son char et il était conduit par ses serviteurs. Mais de qui parle-t-il? Et Philippe lui expliqua les choses. Lui a expliqué. Parce que Philippe avait reçu de Dieu cela. Philippe lui expliqua de qui il était fait mention. Il était fait mention de Jésus, bien sûr. Et quand cet homme, tout eunuque qu'il était, toute personnalité importante, il était venu faire sa béa religieux à Jérusalem, et il repartait, peut-être qu'il avait emmené beaucoup de biens, de présents qu'il avait mis au temple pour Dieu. Il rentra à la maison, il lisait le livre d'Ésaïe, il ne comprenait rien de ce qu'il lisait, mais Dieu lui a fait grâce. Pourquoi Dieu lui a fait grâce? Parce qu'il était sincère. Il était sincère de cœur, frères et sœurs. Quand on est sincère, on est dans l'ignorance, on est dans les ténèbres, tôt ou tard la lumière vient. Dieu permet, crée une situation pour emmener quelqu'un au-devant de nous, pour me dire, monsieur, madame, vous cherchez, eh bien voilà ce que vous cherchez, c'est Jésus. Et Philippe lui a parlé de Jésus-Christ, cet homme, tout eunuque qu'il était, tout bien habillé qu'il était, tout instruit qu'il était, eh bien, il a dit à Philippe, dans une simplicité, il a dit, voilà de l'eau. Il n'est pas descendu de son char pour prendre une petite cuvette pour dire, je vais l'analyser avant que tu me plonges dedans. Et quand vous trouvez de l'eau dans un désert, ça veut dire que c'est une eau qui est stagnante, qui n'est pas peut-être bien propre, mais il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche que je sois ? Mes frères et mes sœurs, quand le cœur est touché, vous ne tenez pas compte des circonstances. Quand Dieu bénit quelqu'un, la personne ne dit pas, oui, il faut que j'aille me baigner, il faut que j'aille me coiffer. Mais c'est au moment que Dieu bénit qu'il faut ouvrir le parapluie et commencer à prendre les bénédictions de Dieu. Cet homme a dit, voilà de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche que je sois baptisé ? Philippe, viens, mets-toi là. Il n'a pas fait de manière, hein. Il voulait obéir. Parce qu'il avait compris qu'un homme comme Jésus, qui a payé, qui a souffert autant, qui devait souffrir autant, et qui avait souffert autant, il voulait connaître cet homme. Non seulement le connaître, mais lui obéir. Eh bien, il a dit, Pierre, Philippe l'a pris, et il l'a plongé dans l'eau. Il l'a baptisé. Et une fois que Philippe a fini son travail, le Saint-Esprit le prit et l'emmena ailleurs pour qu'il puisse faire son travail ailleurs. Ce que je veux dire par là, je reviens sur le texte que nous lisons. Jésus revient à Nazareth, sa ville où il a été élevé. Il prend le livre, comme de coutume on le fait. Il commence à lire ce livre. Cela se trouve dans Luc chapitre 4. Ça évitera que vous me regardiez dans les yeux pendant que je fais la lecture. Comme ça, vous lisez en même temps que moi, vous suivez. Ce n'est pas méchant. Il dit ceci. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Est-ce un hasard ? Non. Ce jour-là, c'était ce livre que Jésus devait avoir dans la main. Et c'est pour ça que l'écriture, Dieu permet que ça soit écrit. L'ayant déroulé, il prit le livre, parce que avant, quand vous allez dans les synagogues, j'y suis jamais allé, hein, mais c'est enroulé par deux, enfin le livre, là, les parchemins, merci, c'est enroulé comme ça. Et après on déroule, on pose, et on fait la lecture une fois, on roule. On referme. Et là, Jésus prit le livre du prophète Ésaïe, on lui remit, l'ayant déroulé, il trouva où il était écrit. Vous avez vu ? Ça veut dire, avant de trouver, il a cherché. Il est là, il ne s'est pas précipité, on lui a donné le rouleau, il l'ouvrit. Et il chercha, là où il était fait question, mention, du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, dit Jésus, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, c'est toujours pour annoncer quelque chose de bon. Et quelquefois, si on le considère comme quelque chose de mauvais, mais Dieu dit, c'est toujours quelque chose de bon. Même pour vous, vous le prenez pour une mauvaise nouvelle, mais Dieu dit, je fais concourir même cette mauvaise nouvelle à ton bien. Alors il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui ? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, la délivrance. Jésus est venu dire, je viens vous délivrer. Amen. Je viens guérir les cœurs brisés. Je viens ouvrir les yeux des aveugles. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand il fit la lecture, ensuite, Le verset 20, il roula le livre. On a l'impression que c'était méthodique. Il vient, il ne fait pas une prêche comme nous, nous faisons ici. Il fait une lecture. La parole que Jésus lisait le concernait. Il n'avait pas besoin d'expliquer, il est la parole faite chair. En lisant, vous verrez que les gens qui écoutaient ce que Jésus dit, qui le concernaient, leur attitude était différente que si c'était un autre, un prêtre ou quelqu'un d'autre qui faisait la lecture. Parce que Jésus a pris précisément le livre d'Ésaïe qui parlait de lui. La lecture qu'il faisait, c'était en réalité lui que cela concernait. Et regardez bien l'attitude, parce que dans la synagogue, il y avait du monde, mes amis. Peut-être que je ne sais pas comme cet après-midi, mais il y avait du monde dans ce lieu. Une fois qu'il a fini cette lecture, verset 20, « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et qu'est-ce qu'il fit ?» Voilà. Il n'a pas dit « Débrouillez-vous avec ça », mais il s'assit. Il se met assis. Lui, regardez son attitude. Hein. Assis. Regardez la suite. Tous ceux, je dis bien tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards sur le grand prêtre. Ils avaient les yeux, mes amis, que pour Jésus. Quand vous rentrez ici, dans cette salle, et qu'il y a un frère qui est en train de mener, comme moi, je suis en train de vous parler, sur qui avez-vous les regards? Le réflexe, bien souvent, se dire, tiens, ah, c'est lui qui est là. Et on s'assoit. Et en s'asseyant, on aura même du mal à se concentrer pour garder les yeux fixés sur Jésus. C'est la chose, c'est l'une des choses les plus difficiles. Quand on rentre dans une église, dans un lieu comme celle-ci, le plus difficile pour certains chrétiens, je ne dis pas pour tout le monde, c'est de rester, garder les yeux fixés sur Jésus. De rester concentré. Alors vous me direz, mes frères, il n'y a pas encore eu de lecture. Mais quand vous rentrez dans cette salle, il y a quelqu'un qui conduit la prière. Quand vous rentrez, vous devez rentrer avec un grand respect. En disant, il y a mes frères qui prient, mais non seulement ça, il y a déjà Jésus qui est là. Et le fait que Jésus est déjà là, ça emmène à ce qu'on détourne nos regards de tout le monde pour le fixer sur Jésus. Alors il est où, vous me direz, Jésus? On ne le voit pas. Pour le moment, il est caché à nos yeux. Mais il est bien réel. Il est bien présent. Et il connaît nos cœurs. Il sait dans quel but, dans quelle intention qu'on est venu. Et si on est venu en disant, Seigneur, je suis venu pour avoir les yeux fixés sur toi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, vous repartirez, mais oh, je ne dis pas béni une fois, mais 10 fois béni de Dieu. Parce que le Seigneur verra qu'il n'y a rien d'autre. Vous êtes venu lui rendre un culte et vous êtes venu vous focaliser sur lui, penser à lui, regarder qu'à lui, attendre de lui. Et ça, il n'y a pas mieux pour réjouir le cœur de Dieu. Ces hommes et ces personnes qui étaient dans le temple, dans la synagogue ce jour-là, Jésus, dites-vous bien, ils ne l'ont pas considéré. Jésus n'était pas quelqu'un qui faisait du bruit. Mais je peux vous dire, quand il a pris le rouleau, il a commencé à lire ce qui était écrit dans ce rouleau, il le disait avec une telle assurance que les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles qui percutaient le cœur. Il n'avait pas besoin de rajouter comme moi, je parle et je rajoute derrière. Je ne suis pas Jésus. Jésus restera toujours Jésus. Je n'arrive même pas à sa cheville encore. Il est le plus merveilleux. Il est le maître. Le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs. Et le fait qu'il soit là cet après-midi, plus rien ne m'intéresse. Excusez-moi de vous le dire, je vous aime dans le Seigneur, mais vous ne m'intéressez pas dans le bon sens du terme, comprenez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je veux que ce soit lui qui occupe mes pensées, mon cœur, tout. C'est lui que je veux. Je ne veux de rien d'autre, c'est de Jésus que j'ai besoin. Et vous, c'est pareil. Et en faisant comme ça, regardez bien, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'a-t-il fait d'exceptionnel? Rien. Il a lu, il a fini sa lecture, il a emboulé, il a redonné au serviteur. Tout ce qu'il a fait. Mais je peux vous dire pourquoi ils avaient les yeux fixés sur lui. Regardez bien. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pourquoi? Parce que cela le concernait. Alors, on n'avait pas encore vu des guérisons, des choses comme ça. Mais Jésus dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit. Oui, parce que, en fait, la parole de Dieu, c'est comme une boucle. Et Jésus, c'est le commencement. La Bible nous dit, il est l'alpha et il est le commencement et... Alors le fait qu'il a fait la lecture, c'est comme si la boucle était bouclée. Voilà l'accomplissement de ce que je viens de lire, elle s'accomplit cette parole. Amen. Vous comprenez cela? Ah ben je le comprends en même temps que vous. Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Regardez tout ce que les gens disaient. Ils étaient étonnés. Des paroles de quoi? De grâce qui sortaient de sa bouche. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? À Marie qui était assise aux pieds de Jésus et qui buvait chaque parole qui sortait de la bouche de Jésus. Elle ne laissait tomber aucune parole qui sortait de la bouche de Jésus. Mes frères et mes sœurs, notre amour pour lui, est-ce que cet amour, quand nous l'avons connu au début, est le même aujourd'hui? C'est une question que je vous pose. Est-ce que l'amour, au début, quand Jésus a touché notre vie, est-ce que c'est le même amour aujourd'hui? C'est pour cela, si ce n'est pas le même amour, si cet amour s'est refroidi, c'est qu'en réalité, il y a une partie de notre œil qui regarde ailleurs. On n'a plus les deux yeux fixés sur lui. Parce que la Bible nous dit que les gens qui étaient là, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue à Nazareth où Jésus a passé son enfance, avaient les regards fixés sur lui. Parce qu'ils le connaissaient, ils n'avaient peut-être jamais entendu Jésus parler ainsi, intervenir comme cela. Et là, ils disent, oh là là, vous avez entendu la manière qu'il a emmené les choses, cette assurance, cette force qu'il a. Vous avez entendu ça? Et là, tout de suite, Jésus est devenu l'attraction, ce jour-là, dans la synagogue. Plus personne n'avait les yeux distraits, à droite, à gauche, comment il est habillé, comment celui-là il fait, comment il parle. Non! Tout le monde convergeait vers lui. Frères et sœurs, je vous le dis, si, avant de venir ici, on dit « Seigneur, je vais dans ce lieu » pour avoir les yeux fixés que sur toi. Je peux vous assurer, l'Esprit de Dieu va saisir chacune de nos cœurs pour pouvoir faire un seul bloc. Et pour qu'ensemble, nous élevons d'une même voix, une même pensée, même amour. On ne serait pas assis là en disant, je ne veux pas me mettre là parce que je sais que je verrai celle-ci ou celui-là. Non! On serait assis là où Dieu veut qu'on soit assis. L'essentiel, c'est que notre cœur soit en communion les uns avec les autres. Bien souvent, Dieu ne nous bénit pas parce qu'il voit que dans nos cœurs, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour. Eh bien, écoutez, tous avaient les yeux fixés sur lui. Et ils étaient dans l'étonnement de ce que Jésus, la manière, ce qui sortait de sa bouche, c'était des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Et il disait, regardez, enfant, il a été élevé où ? À Nazareth. Au lieu de se dire, tiens, c'est l'enfant du pays, il a réussi, il revient au pays, il est beau gosse, il peut se présenter pour être maire du pays, de la commune, il peut faire évoluer la commune, enfin la région. Qu'est-ce qui se passe ? On commence à le jalouser, on commence à essayer de trouver la faille, on commence à essayer de le descendre. Pourquoi ? Il a été élevé, il a grandi à Nazareth. Regardez bien, c'est très important ce que nous partageons. Au lieu de dire, mais Seigneur, tu es merveilleux, on ne savait pas que dans notre pays, là, dans notre village, il y avait un tel talent. On ne savait pas parce que tu étais caché. Maintenant, tu es sorti, Dieu t'a fait sortir de l'anonymat. On est émerveillé, béni soit Dieu, que de Nazareth est sorti un sauveur, un homme aussi extraordinaire que Jésus. Vous savez quoi ? La Coupe du Monde 98, quand les Français ont gagné la Coupe du Monde, certains sont retournés au pays. Je ne donnerai pas leur nom. Quand ils sont arrivés au pays, on les a accueillis à l'aéroport. Ils sont arrivés comme des premiers ministres ou comme des présidents. Pourquoi ? Ils avaient été vainqueurs. Eh bien, écoutez, ces personnes-là, en les accueillant, c'est une forme de reconnaissance. Vous êtes d'accord avec moi ? On dit, ah, je le connais, je l'ai vu grandir tout petit, il était comme ça, il jouait au ballon par ici, par là, il avait le nez qui coulait, et souvent je lui dis, sors de là petit, va là-bas. Alors il profite de la gloire de celui-là pour en tirer une gloire. Là, ils avaient une immense possibilité de pouvoir dire, je connais Jésus. C'est dans notre village qu'il a grandi. Tu sais que je le connais, hein. J'ai joué avec lui, je parlais avec lui quand il était petit, mais il n'était pas comme tout le monde. Il était un peu retiré, très discret, il observait beaucoup. Déjà très jeune, Jésus, il avait une sagesse, mes amis. Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? Regardez. N'est-ce pas ? Est-ce que c'était le fils de Joseph ? C'était le fils de Dieu. Déjà, on le sort par méconnaissance, on le rabaisse à quelqu'un. Jésus n'est pas sorti des reins de Joseph. Vous êtes d'accord avec moi ? Jésus n'est pas sorti des reins de Joseph. Jésus est sorti de Dieu. Alors pourquoi là on lui dit, parce qu'ils viennent parler, parce qu'il opère une attraction, on veut essayer de détourner les gens qui regardent vers lui pour dire, ah oui, mais c'est le fils de Joseph. C'est-à-dire, c'est un homme comme vous. Non, Jésus c'est bien un homme comme vous et moi, mais il est le fils de Dieu. Sa venue est un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. Comment une femme vierge peut être enceinte ? Vous pouvez me l'expliquer ça ? Sans relation avec un homme ? Eh bien, Marie, ça a été ça. Elle n'avait aucune relation, elle était vierge. Et voilà qu'elle est enceinte. Pourquoi ? Heureusement que Dieu a envoyé un ange pour parler à Joseph. Joseph commençait à préparer sa valise. « Ah, j'en ai assez, je m'en vais. Comment ça se fait ?» Il ne comprenait pas. Et l'ange lui dit, « Oh, calme-toi. L'enfant qu'elle porte vient d'en haut. » D'accord ? Alors tu restes tranquille. Et tout de suite, le Seigneur a calmé son ardeur. Et il est resté calme. S'il avait dit, « Oh, j'en ai assez, j'en ai marre. » Dieu lui dit, « Oh, viens ici. » Mais Joseph était un homme qui était dans la lignée des choses. D'accord ? Alors, ça montre encore que tôt ou tard, quand on est un enfant de Dieu, eh bien, on acceptera toujours ce que Dieu veut, sa volonté. Et là, n'est-ce pas le fils de Joseph ? On ramène les choses terre à terre. Et le problème qu'il y a, frères et sœurs, c'est quand on se réunit comme cet après-midi, si nous ne veillons pas à garder Jésus à la hauteur que Dieu l'a élevé. Parce que Dieu l'a élevé au-dessus de... Dites-le-moi. Dieu a élevé Jésus au-dessus de... Alors pourquoi nous le rabaissons à un Jésus humain ? Il n'est plus l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'est plus celui qui passe dans comme étant anonyme. Jésus, quand il est au milieu de nous, c'est nous qui lui donnons de la valeur selon la manière que nous le regardons. Si nous le regardons comme étant un homme comme nous, on va le dévaloriser. Mais si nous le regardons comme Dieu le regarde, et comme les êtres célestes, les anges le regardent, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Alors nous devons le considérer en tant que tel, en tant que celui qui a reçu de Dieu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce que nous lui offrons ne doit pas être quelque chose que nous avons offert à quelqu'un avant lui. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit déjà utiliser pour quelqu'un. Les mots que vous utilisez pour les autres, ce ne sont pas les mêmes mots que l'Esprit vous donne pour parler à Jésus. Nous devons nous laisser saisir le cœur par le Saint-Esprit. Les mots que nous allons lui adresser, ce seront des mots que l'Esprit de Dieu a cherchés pour pouvoir que nous puissions lui donner. Des mots qui ont une valeur. Et c'est pour cela que ça nous demande à nous, avant d'ouvrir la bouche, de laisser le Saint-Esprit saisir notre langue et notre cœur. Parce que c'est lui qui met en nous ce que nous devons offrir à Dieu. Vous me suivez jusque-là ? Je poursuis. N'est-ce pas le fils de Joseph ? Voilà ce à quoi on ramène Jésus, très terre à terre. Jésus leur dit, puisque vous me ramenez à très bas, parce que vous ne me connaissez pas. Vous me connaissez en tant que petit bonhomme, petit jeune garçon, mais aujourd'hui, je ne suis plus le même. Attention, je ne suis plus le même. En gros, c'est ce que Jésus voulait leur dire. Vous m'avez connu, comme vous me le titrez, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Mais je ne suis plus à ce stade-là. Je suis le fils de Dieu. Et le fils de Dieu, regardez bien, Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, là, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, puisqu'ils avaient appris que Jésus faisait, le bruit a couru, que tu as fait à Capernaüm. Et quand vous lisez au verset 32, regardez bien, puisqu'il descendit à Capernaüm, et on était frappé de sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Les gens étaient frappés de la doctrine de Jésus. Pourquoi ? Jésus n'était pas un orateur, ni un espèce d'homme qui vient avec un français bien parlé. Lisez avant ce que je vous ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand on est oint, on est bien oint. Et ce qui sort de notre bouche, ça a une autorité, une force. Et là, Jésus parlait. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans cette synagogue à Capernaüm un homme qui avait un esprit de démon. Un esprit de démon qui était impur. Et qui s'écria d'une voix forte. Il dit, vous avez vu que Jésus parlait avec autorité et le Saint-Esprit a été délogé dans la synagogue. Le mauvais esprit qui était là et qui était tapis dans cette personne et qui était là, qui attendait que le culte, que la réunion se termine pour rentrer à la maison. Pour accompagner la personne, puisqu'il habitait. Mais comme Jésus était là ce jour-là, et comme la parole de Jésus, c'est une parole qui va débusquer, qui dérange, qui bouscule, eh bien Jésus par sa parole, le Saint-Esprit a débusqué le mauvais esprit. Et cet homme s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi ? Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi ? » Il n'y a rien, c'est vrai. Le monde des ténèbres et du côté de Dieu, il n'y a rien de commun. La lumière et les ténèbres, ça ne se mélange pas. Et là, le mauvais esprit dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Vous avez remarqué, il a mis « entre nous et toi ». Il n'a pas dit « entre toi et nous ». Il a mis les ténèbres en avant. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi ? Nous sommes ténèbres, tu es lumière. Et ta lumière nous dérange. Ta parole nous dérange, Jésus. Et ta parole nous empêche de dormir. La sieste de 15 heures, c'est ça ? Mais vous n'avez pas le temps de dormir ici, hein ? Il dit ceci, tu es venu, il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi ? Et il cite après, Jésus d'où ? Ils le savent d'où vient Jésus. Ils savent qu'il a été élevé, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes savaient, dans Luc chapitre 4 au verset 16, ils savaient que Jésus était l'enfant du pays. Mais ils étaient complètement aveugles, ils ne connaissaient pas qui était véritablement Jésus. Et il y a un problème bien souvent chez nous, chrétiens, il y a une méconnaissance de qui est Jésus véritablement. On ne le connaît pas. On parle de lui, mais on ne le connaît pas véritablement. Si on le connaissait, on parlerait moins. Nos paroles seraient peu nombreuses. Et là, il dit Jésus de Nazareth. Alléluia. Les mauvais esprits savent d'où vient Jésus. Parce que ils avaient depuis bébé, depuis son enfance, depuis qu'il est sorti de la ventre, du ventre de sa maman, il a été rejeté. Pas de place pour lui dans les hôtels. On va frapper, on dit ma femme doit accoucher. Non, il n'y a pas de place, allez voir ailleurs. C'est dans un endroit où on garde les moutons la nuit. Et une fois que Marie a accouché, qu'est-ce qu'elle fit ? Elle a fait un acte d'amour extraordinaire. Elle a emmailloté, elle a réchauffé ce petit bébé. C'est vraiment quelque chose qui est touchant. Elle a emmailloté avec un linge le petit. Et ensuite, elle l'a posé dans le mangeoir. Et les premières personnes qui ont rendu visite à cet être, à ce bébé roi, un bébé roi, ce sont des bergers. Ce n'étaient pas les notables, ce n'étaient pas ceux qui étaient là, les rois, les sacrificateurs, les prêtres. Ils étaient occupés. Pour eux, Jésus, ce n'était pas maintenant qu'il doit venir. Et ils n'attendaient pas quelqu'un comme ça. Ils attendaient quelqu'un qui vienne, un homme du ciel, tout fait déjà, un roi, qui descend du ciel, spectaculaire. Comme ça, tétanisé, ils attendaient quelqu'un comme ça. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et les seuls qui sont venus lui rendre visite, ce sont des bergers qui étaient là, dans la nuit, qui gardaient leurs troupeaux. Et les anges, des myriades d'anges, frères et sœurs, pendant que les hommes étaient occupés, parce que à ce moment-là, il fallait aller se recenser, faire un recensement, la ville s'agrouillait de monde à Bethléem, il y avait un monde fou là-dedans, et il n'y avait pas de place, les gens avaient réservé depuis des mois peut-être, et ils arrivaient, ils avaient déjà réservé, c'est-à-dire si tu as de l'argent, tu passes, si tu n'as pas, tu es à la rue. Jésus arrive, il allait avec Joseph, ils allaient s'inscrire. Eh bien écoutez, pas de place. Mais béni soit Dieu, le Seigneur Jésus, chaque chrétien, chaque homme, chaque femme présent ici cet après-midi et qui avait accepté Jésus dans votre cœur, c'est comme si vous avez, c'est l'autel, l'hôtellerie divine. vous avez accepté un être extraordinaire. Vous ne réalisez pas encore qui il est, mais il est bien le Fils de Dieu. Et il habite vos cœurs. Même si tu es dans l'épreuve, même si tu es malade, il habite ce cœur. Alléluia. Il n'y a que si tu lui dis « Sors de ma vie » qu'il sortira. Il est fidèle. Il s'accroche comme une ventouse, comme une sangsue. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé quelque chose. Il a dit « Ce que j'ai commencé en toi, je vais le poursuivre et je vais l'achever. » Je ne laisse jamais quelque chose en plan. Mais je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre ta cause devant Dieu, mais aussi pour aller jusqu'au bout, pour accomplir ce que j'ai commencé dans ta vie. Alors mes frères et mes sœurs, tu peux cet après-midi dire cette parole de Dieu. Je me confie en toi. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui place sa confiance dans la chair, qui prend appui sur les grands, sur les uns et les autres. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Même dans le désert, Dieu fera venir de l'eau, il fera le miracle. Même dans le désert, il pourvoira pour les nourrir. Il fera jaillir de l'eau du rocher, parce que Jésus est fidèle. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Persévère, va jusqu'au bout, ne lâche rien mon frère, ma sœur. Même si tout autour de toi, c'est en train de... Ne lâche rien, vas-y, fonce. Garde les yeux fixés sur moi. C'est moi qui est celui qui renouvelle ta foi, ce n'est pas les uns les autres. Dieu se sert d'eux, bien sûr. Mais c'est moi qui est le stimulateur, le chef et le consommateur de ta foi. Allons faire un tour, s'il vous plaît, avec les quelques minutes qui me restent encore. Dans Hébreux, tournez la page, s'il vous plaît. Hébreux, est-ce que vous avez compris que quand vous venez ici, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus ? Si vous attendez quelque chose des hommes ici de nous, vous n'auriez rien du tout. Par contre, si vous venez en disant « Seigneur, je veux recevoir de toi », alors je peux vous dire, il faut préparer les vases. Dans votre cœur, hein, vous préparez les jarres vides. Le Seigneur va les remplir. Il va les remplir, vous allez, comme les abeilles, vous savez, quand ils sont remplis de pollen, ils volent très bas, c'est tellement lourd. Mais avant qu'ils fassent le plein de pollen, ils volent très haut, ils peuvent même vous piquer. Mais quand ils sont chargés, ils sont vulnérables. Parce que ils sont lourds. Ben, c'est ce que Dieu va faire cet après-midi. Il va remplir votre cœur. Il est en train de le faire. Je le crois de tout mon cœur. Prenons la parole de Dieu. Nous y sommes. Hébreux chapitre 6. Il me reste encore combien de temps, frère ? 20 minutes. Alors en 20 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Alléluia ! Coupe ça, mon frère. Tu sais très bien comment je fonctionne. Tu n'as pas intérêt de mettre ça sur Internet. Parce que le frère chinois qui va écouter ça, il va dire, mais qu'est-ce qu'il a mangé, quoi, c'est qui ce monsieur? Il va me prendre pour un... Hein? À partir du verset 11, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier, écoutez bien ceci, vous qui travaillez pour lui, vous qui œuvrez pour l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Quand vous travaillez pour Dieu, c'est pour le nom de Dieu de Jésus que vous le faites. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, Dieu, dans sa bonté, permet que vous rendez service aux saints. Ce ne sont pas des étrangers, mais c'est à ses enfants que vous le faites. Et je peux vous dire, c'est consigné bien dans un livre dans le ciel. Regardez la suite. Il dit ceci, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, frères et sœurs, et l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous n'avez pas eu honte du nom de Jésus. » Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous sentez que vous avez peur de confesser Jésus, je ne dis pas le confesser de manière manquant de sagesse, mais si on vous demande raison de votre foi, comment, monsieur, madame, vous avez vécu la crise, vous êtes encore là comme si de rien n'était? Oui, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur et mon Seigneur. Alors là, confessez le nom du Seigneur Jésus. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous, prenez-le pour vous ça, montre le même zèle, vous avez vu, être zélé pour Jésus, pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. La Bible dit que le juste que tu es, toi et moi, nous sommes des justes grâce à Dieu qui nous a sauvés, Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous sommes justes aujourd'hui parce que Dieu nous a rendus justes. Le juste, dit l'Écriture, a de l'assurance comme un jeune lion. Jésus parlait avec autorité. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je le répète, comme un jeune lion. Est-ce que vous avez déjà vu la démarche d'un jeune lion? Vous qui regardez toujours les émissions culinaires, changez de chaîne, allez sur la 5, regardez un peu les émissions, on va dire, enfin je dis la 5 parce que je suis... Enfin bref. La démarche d'un jeune lion et d'un vieux lion, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu peux me faire la démarche d'un jeune lion, frère? Vous rigolez, je suis très sérieux. Vous savez, le jeune lion, je l'ai vu tout à l'heure. Au lieu de passer discrètement par la porte, l'allée centrale. Je t'ai vu, frère. Je t'ai vu, mon frère Benjamin. L'allée centrale, il descend. Alors j'ai dit, tiens, c'est un jeune lion, celui-là. Tu vois, pendant que je travaille, j'ai les yeux sur lui. En fait, je lui demande de nous faire la même démarche, il ne veut pas. Benjamin, veux-tu aller au milieu de la salle? C'est le pasteur qui te parle. Et normalement, tu dois être soumis aux anciens. Tu coupes ça, frère, c'est en famille, hein, s'il te plaît. Hein. Vas-y, Benjamin, va te mettre là où la sœur est en train de faire. Elle a chaud déjà pour toi. Vas-y. Montre-nous la démarche d'un jeune lion. Proverbe chapitre 28, verset 1er. Je ne raconte pas de bêtises. Merci frère. Donne-moi la démarche d'un jeune lion. Non, vas-y, viens vers moi frère. Voilà. Ça c'est la démarche. Alléluia. Encore, là c'est parce qu'il est un peu réservé. Normalement, le jeune lion, vous voyez, il a plein d'assurance. Il est comme ça. Il marche. Il pense qu'il a déjà de l'expérience, il a déjà vaincu, il a déjà eu des campagnes, il a déjà chassé. Oui, un jeune lion, écoutez-moi bien, les lions, très vite, sont les bébés, enfin, quand ils deviennent jeunes, prêts à se défendre d'eux-mêmes, les parents les laissent. C'est-à-dire, l'école est finie, l'instruction est finie. Maintenant, va, on regarde comment tu fais. On a chassé pour toi, on a égorgé les bêtes pour toi, on les a emmenés, tu as mangé, tu n'as rien fait, tu regardais comme ça. Mais maintenant, tu es devenu un jeune lion, va chasser, va sur le terrain, va chasser les animaux, parce que si tu ne chasses pas, tu ne mangeras pas. C'est comme l'Écriture qui dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Les feignants, Dieu n'en veut pas. Eh bien, le jeune lion va faire valoir, il va faire ses expériences, il va se tromper, il va manquer de technique comme les vieux lions. Mais quand il attrape sa proie, il ne la lâche pas comme ça. Parce qu'il sait que s'il la lâche, il ne mangera pas. Alors la Bible dit que le chrétien, le juste que nous sommes, nous avons de l'assurance. L'assurance, c'est ce qui nous fait traverser, qui nous fait, je vais trouver mes mots, hein, qui nous fait avancer, même face à l'épreuve. Face aux difficultés, l'assurance nous donne d'avancer, frères et sœurs. Alors cette assurance-là que Dieu nous dit là, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Proverbe chapitre 28 de tête au verset 1er. Confirmez-moi s'il vous plaît et je dis oui c'est bien ça. Et il dit ceci, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. En sorte que vous ne vous, dites-le, vous savez le jeune lion, il lâche pas comme ça, hein. Il n'abandonne pas comme ça, parce que dans tout ce qu'il va vivre, il se prépare à être un futur lion. Dans ce que tu vis, mon frère, ma sœur, Dieu te prépare à devenir quelqu'un de très important. Tu ne le réalises pas aujourd'hui, mais Dieu travaille pour te faire devenir quelqu'un de très important. Important pas dans ton travail, dans ce qui est humain, mais dans les choses de Dieu. Parce que Dieu nous prépare à quelque chose que l'adversaire essaye de nous voler. Il essaye de nous voler cette assurance et cette espérance. Quand tu as de l'assurance, quand tu as de l'espérance, tu as une assurance. Et je peux vous dire une chose, que le livre Hébreux chapitre 11, allons faire une lecture dans Hébreux 11, on reviendra dans deux minutes là où on était, Hébreux 11, je le dis de tête, à partir du verset 13. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Ce sont des femmes, des hommes qui ont été confrontés à des situations terribles et ils attendaient justement, ils espéraient. Et regardez ce que dit l'Écriture. C'est dans la foi. Écoutez bien verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous. Vous voyez ? Et la Bible rajoute, sans avoir obtenu les choses promises. Alors mon frère, ma sœur, si tu meurs, si Dieu te fait mourir sans que tu aies obtenu ce que tu attendais, est-ce que tu vas dire, ben Seigneur, ben écoute, j'ai plus d'espérance. Tu m'as trompé, Dieu ne t'a pas trompé. Parce que Dieu nous donne, Dieu nous a ouvert le rideau pour nous dire, voilà une carrière, voilà des hommes qui ont eu une carrière avec moi, qui ont eu une expérience avec moi, regarde-les. Et en nous ouvrant Hébreux 11, Dieu nous parle des hommes, des femmes, et à chaque fois, vous verrez dans ce livre des Hébreux, il dit, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est par la foi. Et il nous dit, la foi, c'est une ferme assurance. Vous voyez l'assurance qui est encore là. C'est une ferme assurance. Dieu veut nous affermir dans cette assurance qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit à travers sa parole. Et il dit ceci, qu'il, c'est par la foi, au verset 13, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Vous avez vu ? Pas de près, mais de loin. Quand vous voyez quelque chose de loin et le voir de près, c'est deux choses différentes. Mais aucun de ceux qui ont attendu n'ont dit, ils ont dit, ah, on a attendu, mais on n'a rien vu venir. Eh ben écoutez, on va aller voir ailleurs. Non, non. Ils sont restés dans la foi. Et c'est ce que Paul disait. Paul le disait à Timothée, il dit, Timothée, tu sais quoi? Je vais m'en aller, mais j'ai gardé ce dépôt, j'ai gardé cette assurance, frères et sœurs, qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Nous le verrons. Quels sont ceux qui le verront? Ce sont ceux qui vont mourir, amen, qui vont demeurer dans cette assurance, dans cette espérance, et qui vont tenir bon dans la foi. Ce sont ceux-là qui verront Jésus. Mais les autres, les incrédules, les lâches, ceux qui ont marché au début, qui ont marché après, et qui à la fin de leur vie, ils disent, bon ben, on va faire comme des masses, on va s'en aller. On va laisser l'amour du monde gagner notre cœur. On va laisser les choses, les distractions de ce monde envahir notre cœur. On va laisser la foi. Ne le faites pas, frères et sœurs. Même si c'est dur, même si c'est éprouvant, restons dans cette espérance et dans cette assurance. Tu dis amen ? Ils l'ont vu de loin, reconnaissant qu'ils étaient, quoi ? Étrangers. Nous sommes des étrangers. Il y a des bien-aimés, on ne vous interdit pas d'aller vous ressourcer dans votre région, dans le pays où vous avez grandi. Jésus est venu à Nazareth, il a été élevé là-bas. Mais que tu ailles dans ton pays pour te ressourcer, quand tu reviens non pas en étant affaibli, on va dire en faisant de, comment on dit, nostalgie. Non, tu reviens en disant, c'est là que j'ai grandi, mais maintenant ma patrie, elle est céleste. Nous sommes en chemin pour aller au ciel. Dieu t'a permis d'avoir un morceau de terrain, tu as bâti dessus. Sache qu'une chose, que derrière ton corbillard, la maison ne sera pas sur une houlotte pour entrer dans le caveau avec toi. Ça sera toi et tout seul. Mais ce que tu as fait, ça sera les enfants ou autres qui vont en profiter. Mais dites-vous bien une chose, si Dieu permet, parce que, écoutez bien, Abraham était un homme qui était millionnaire. Dieu l'avait béni. Vous savez comment, sous quoi il habitait? Sous des tentes. Un millionnaire qui habitait sous des tentes. Vous allez dans les pays où il fait chaud là-bas, vous voyez les grosses maisons. Ils y viennent peut-être une fois tous les deux ans. Ces milliardaires. Alors s'il pouvait nous laisser un peu ses appartements pour faire des réunions, ce serait bien. Hein? Et comme les sœurs aiment bien nettoyer, ils diront, mais c'est bizarre, la maison, comme si elle était nickel. Elle était bien propre. Eh bien, écoutez-moi bien. Abraham, qui était riche, Dieu l'avait béni. Cet homme habitait sous des tentes. Alors vous me direz, ouais, c'était à l'époque des Bédouins, des babas, machin. Il aurait pu construire. Parce que depuis toujours, Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays. Là où il était à Charan, il y avait déjà des constructions. Les gens habitaient dans des maisons. Alors, mais lui, comme Dieu lui a dit, tu vas quitter et je te montrerai le pays que tu dois aller. Alors, partout où il allait, il prenait le soin de ne jamais s'y attacher. Il veillait à ce que son cœur ne soit pas attaché aux choses matérielles. Il veillait à garder son cœur attaché à Dieu. Au point même que quand Dieu lui a donné ce fils, tant attendu, Isaac, Dieu lui a dit, donne-moi ce fils que je t'ai donné, donne-le-moi maintenant, celui que tu aimes, tu vas me l'offrir en sacrifice. Qu'est-ce que fait Abraham? Il ne s'est pas mis à pleurer, il a placé sa confiance en Dieu. Et il a dit, Seigneur, tu me l'as donné, je te le redonne moi. Pourquoi? Parce que je sais que tu as le pouvoir de le ressusciter. Vous voyez cette assurance, c'est que nous, en marchant avec Dieu, rassurez-vous, si nous demeurons dans la foi jusqu'à notre mort, Jésus viendra nous chercher, nous ressusciter. Pour être avec lui, pour toujours. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors je finis, puisqu'il faut que je, hein, il faut que je termine. Hébreux chapitre 10. Il me reste 2-3 minutes, Alain, c'est ça? Comment? Une minute. Vous voyez, ils n'ont pas de respect pour moi, ces frères. Non, mais je vous le dis, je suis très sérieux. Non. On rigole, enfin, on rigole, on se détend un tout petit peu. Hébreux chapitre 10 et au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Pourquoi il ne faut pas l'abandonner? Parce que cette assurance, il y a quelque chose qui est ancré, attaché à cette assurance. Il dit, à laquelle est attachée une croix. Frères et sœurs, il y a quelque chose de grand qui nous attend. C'est pour cela que nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas abandonner, nous devons nous accrocher quoi qu'il arrive. Dieu nous a bénis. Si demain Dieu dit voilà, ce que je t'ai donné, je le reprends. Job dit, l'Éternel a béni, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit, je ne peux pas encore le dire ça, pour le moment. Et il dit, cette assurance-là que nous avons, que nous ne devons pas abandonner, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense, non pas une petite, et cette récompense, c'est la résurrection et c'est la vie éternelle. Voilà ce qu'il y a derrière. Il y a derrière cette grande récompense, grande rémunération, on va être rémunéré. Pour la marche, pour la persévérance, pour notre attachement, malgré les oppositions, on va être récompensés, frères et sœurs. Il y a une récompense qui nous attend. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il promet, il le dit. Ce qu'il dit, il le fait. Et il dit ceci au verset 36, car vous avez besoin de quoi ? Cet après-midi, j'ai besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est quoi ? Le retour de Jésus, la vie éternelle. Au verset 37, encore, j'ai pas entendu. Encore un peu de temps, cela met en évidence notre manque de patience. Nous avons besoin que Dieu nous renouvelle dans la patience. Parce que par manque de patience, nous nous précipitons. Et la Bible dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Et il dit ceci, encore un peu de temps, celui qui doit venir, il s'appelle comment ? Viendra. Et il ne tardera pas. De la même façon qu'il est parti au ciel, de la même façon il reviendra. Et mon juste, ils sont où ? Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et il dit, et mon juste vivra par la foi, frères et sœurs. Mais, il y a un mais, et cela nous concerne. C'est bien de marcher au début, aujourd'hui, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La récompense, c'est pour ceux qui vont jusqu'au bout. Je n'ai jamais vu un athlète couronné sans qu'il aille jusqu'au bout de sa course. Et la course, la vie chrétienne, c'est un marathon. Certains sont devenus obèses, spirituellement parlant. D'autres se peaufinent, ils jeûnent, ils traitent durement leur corps, ils veulent rester sveltes, musclé spirituellement, c'est pas la peine d'aller dans les salles de muscu, eh bien ils restent vraiment toujours, ils s'entretiennent, ils se nourrissent que de la parole de Dieu, ils ne vont pas chercher ailleurs pour avoir une obésité morbide. Ils plongent leur regard dans la parole de Dieu pour que l'homme nouveau se développe, se muscle, afin qu'il n'ait pas de souffle au cœur, mais qu'il marche Et quand le moment vient à courir, il se met à courir, comme dit l'apôtre Paul, j'ai saisi Christ. Maintenant, je cours. Je marche, après je cours. Vous savez, c'est l'endurance du chrétien est mise à rude épreuve. Et si tu te nourris de la parole de Dieu, la Bible fera exactement ce qui s'est passé pour Élie, qui a mangé un petit gâteau, et la Bible nous dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits. Le simple petit gâteau que l'ange, sur une pierre chauffante, lui a proposé de manger et de boire une cruche d'eau bien fraîche. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle va nous permettre de marcher pour aller jusqu'au bout. Si nous la négligeons, nous aurons des carences, des souffles au cœur, je caricature, des faiblesses. Mais si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, elle va faire de nous des athlètes pour que nous allions jusqu'au bout, afin d'être couronnés par Jésus. Venez béni de mon Père. Je finis. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, qui veut se retirer cet après-midi? Tout est fait. Tout est fait autour de vous, dans vos vies, autour, pour que vous puissiez vous retirer, baisser les bras en disant j'en ai marre, j'en ai assez, je suis fatigué, j'abandonne. Tout est fait pour. Mais tu tiens bon. Tu t'accroches. On s'accroche, on tient bon. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il revient, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se... Ils sont où? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous disons, mettons-nous debout quelques instants. Dieu nous fortifie cet après-midi, parce qu'il a vu dans quel état tu es entré dans cette salle, fatigué, peut-être découragé. Eh bien, il se sert de sa parole par le Saint-Esprit pour t'encourager. Amen.